Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. I am not a
believer in climate change. C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit, là.
Vous écoutez Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Et cette semaine, c'est le Dr M qui est de retour au micro des activistes pour la deuxième partie de son témoignage. Vous pouvez écouter en premier l'épisode des Nouvelles du Front numéro 1 ou commencer par cette partie, l'ordre n'est pas très important. Au moment de la deuxième vague, le Dr M n'était plus en première ligne, raison pour laquelle nous avons pu la solliciter pour répondre à nos questions. Si vous êtes un ou une professionnelle de santé qui nous écoute et qui voudrait prendre la parole, contactez-nous. La tribune d'activistes est ouverte, vous avez la parole pour communiquer avec le reste de la population, avec nous, pour nous permettre de comprendre ce que vous traversez, comment vous avez besoin de nous, comment on peut contribuer et travailler ensemble. C'est l'objet de cette série de témoignages intitulée « Des nouvelles du front » dont nous diffuserons certains épisodes dans la programmation d'activistes chaque mardi et d'autres en hors-série, surtout s'ils deviennent de plus en plus nombreux. Vous pouvez nous écrire à tutoconquérirlemonde@gmail.com, objet « Des nouvelles du front » et l'on vous contactera pour la suite. Je vous laisse en compagnie du Dr M, médecin remplaçant dans une ville de province, pour la deuxième partie de son témoignage. Bonne écoute!
Donc, je pense qu'on a une population française qui est éduquée de façon un peu individualiste, qui n'est pas forcément responsable de son éducation non plus, parce que c'est des choix politiques, je pense, le système scolaire, l'éducation, tout ça, qui sont... Enfin, pour moi, c'est mon avis personnel, mais le système actuel d'éducation française n'est pas fait pour faire des adultes libres et critiques de leur choix et ce genre de choses. Et donc, on a les lois qui vont avec ce qu'on a fait du système éducatif. Bêtement, la redevance télé, ça sert à payer Hanouna et plus c'est pas sorcier. En termes d'abrutissement des populations, on est pas mal, je trouve.
Alors, je voulais justement rebondir sur le fait de devenir des adultes libres et critiques, puisque une des raisons pour lesquelles on est en train de se parler ce soir, on enregistre là en soirée, après nos journées de travail respectives, et c'est vrai qu'on parle quelques jours après la sortie de ce film qui a fait qui a beaucoup parlé de lui sur la toile. Je vais le citer, ça s'appelle Hold Up du coup, et ça se présente comme un documentaire, mais c'est pas vraiment un documentaire. Et c'est vrai que on le sait, on le constate, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance dans le gouvernement. On vient d'en parler, quand on t'a menti, c'est compliqué d'avoir confiance. Je suis la première, voilà, à être frustrée de cette situation. Mais voilà, toi, en tant que personnel soignant, en tant que personne qui a été témoin en première ligne de l'arrêté de la maladie, est-ce que tu as été confronté à des gens qui te disent le Covid, ça n'existe pas, c'est une manipulation du gouvernement, ou alors même qui te disent oui, bien sûr, ça existe, mais c'est qu'une grippe un peu forte, on va pas arrêter de vivre pour autant, et qui n'adhèrent du coup pas du tout aux mesures aussi absurdes et punitives puissent-elles être, on vient d'en parler, mais qui sont pas dans le rejet finalement d'une espèce de discipline collective, qui sont dans le rejet même de la réalité qu'on est en train de traverser. T'en as rencontré des gens comme ça ?
Alors, au début, un petit peu, au début de la première vague, j'avais des patients qui me disaient « Mais enfin, docteur, vous y croyez, vous, à ça ?» Et puis, on a été une région qui a été malheureusement très touchée. Et je crois que dans mes patients, tout le monde a un proche qui est mort du Covid ou qui a été touché par le Covid. Et où c'est une... Enfin, alors déjà, dans mon entourage à moi, j'ai un gros biais, on est tous soignants. Donc mes amis qui bossent à l'hôpital, ils les ont vus mourir, les gens. Hein. Donc, voilà, une de mes meilleures amies qui est ma co-interne, Elle bossait en médecine polyvalente pendant le Covid, elle a eu le Covid. Et elle a eu un beau Covid bien cogné, on s'est tous inquiétés pour elle, on lui envoyait des messages en disant « Tu prends ta saturation là, t'es à combien ?» Moi j'ai pas vraiment eu ça parce que dans la ville on a été beaucoup touchés. Et puis, alors étonnamment, une patientèle qui est assez défavorisée sur le plan socio-économique. On est une ancienne ville ouvrière sur laquelle il n'y a plus d'usine depuis un moment. On a beaucoup de gens au chômage, on a quand même une grosse, pas vraiment une misère sociale, c'est pas la même problématique que dans les cités ou dans ce genre de choses, mais on a quand même si une forte misère sociale, et on a encore une place du docteur qui est en tout cas face à moi. Les gens ils demandent beaucoup mon avis et ils sont très contents de qu'on leur explique les choses, et ils sont plutôt d'accord avec ça. Donc moi j'ai pas croisé en vrai des complotistes. Après sur internet il y en a plein. Et je me suis un peu coupée de tout ça là. Le documentaire je veux pas le voir, j'en ai eu un super bon résumé où ça a l'air d'être à la fois le virus mortel de Bill Gates et une grippe, donc le truc a l'air de même pas être cohérent avec lui-même. Et clairement, si vous avez du temps à perdre, regardez The Queen Gambit et absolument pas ce documentaire. Je suis pas coupée parce qu'on n'est jamais vraiment coupée. Et puis des gens pas du milieu médical, bêtement, mon prof de judo, il venait me voir en me disant « Mais qu'est-ce que t'en penses ? Regarde, moi, on m'envoyait ça. » Et il me partageait des trucs à la con avec le pH alcalin du citron qui suffirait à tuer le Covid et tout. Enfin, des trucs... Pourtant, c'est un mec qui est pas... Alors qu'il a pas fait d'études scientifiques, bien sûr, mais c'est un mec qui est normal, qui est pas con, qui est pas machin, et qui se laissait bouffer par des trucs complotistes en me disant « Ah ben, on a dû cacher des choses, machin. » Alors qu'il était... Quand on en discutait, qui était complètement, au final, en quête d'informations et très raisonné, enfin, il n'était pas complètement allumé dans le complot, mais des trucs de naturopathie à la con, le virus meurt à 60 degrés, alors buvez du thé, ça va aller mieux. Je pense qu'on n'aurait pas arrêté l'économie mondiale si en buvant du thé, ça allait mieux, quoi. Et puis pareil, c'est pas une grippe. Enfin, moi, je les ai vus, les épidémies de grippe. Hein. J'étais en maladie infectieuse pendant la grippe. Effectivement, c'est une période qui est un peu chiante, mais c'est pas non plus... les gens qui meurent, ils ont quand même souvent des comorbidités. On a un vaccin, on connaît les mesures de protection, c'est vraiment pas la même ambiance. Et puis la grippe, c'est... La grosse grippe d'il y a 3 ans, elle a fait 14 000 morts. Le Covid, il a fait 60 000 morts avec un confinement, avec des mesures drastiques, avec les masques, avec le gel hydroalcoolique, avec... Enfin, tout ça.
Avec les mesures. Parce que je vois beaucoup de gens qui comparent la mortalité du Covid à d'autres épidémies, d'autres maladies. Mais là, c'est avec les mesures drastiques. Et on peut appeler un confinement de 2 mois une mesure drastique quand même.
Et puis des pays comme la Chine, qui je pense ne sont pas les plus à l'écoute de la santé de leur population, qui sont quand même beaucoup dans le capitalisme, machin, tout ça, pour que les pays capitalistes arrêtent leur économie pour un truc comme ça, c'est que c'est vraiment la merde. Enfin moi je pense qu'on peut déjà, le fait de se dire que la Chine a confiné, machin, tout ça, même si peut-être qu'on sait pas ce qui se passe en Chine, peut-être qu'on n'a pas tous les chiffres, peut-être que tout ça... si c'était pas grave et si c'était que la grippe, on n'aurait pas fait tout ce merdier.
Est-ce que tu penses que les gens qui relaient ces théories ou qui croient à toutes ces médecines alternatives comme boire du thé pour tuer le virus, pourquoi tu penses qu'ils croient à ces mesures-là, à ces conseils-là ?
Bah, en fait, tu le dis très bien toi-même, c'est une croyance. C'est pas de la science, c'est pas du savoir, c'est pas quoi que ce soit, c'est une croyance, et une croyance, c'est rassurant. C'est pour ça qu'on croit en Dieu aussi, je pense. C'est une part de notre éducation, mais c'est une part de quelque chose de très rassurant. Et de quand la réalité est trop compliquée, parce que là, c'est ça, c'est trop compliqué, putain, on comprend pas, c'est chiant. On est scientifique, on sait pas tout, on sait pas faire, on sait pas soigner, on comprend pas comment ça marche, on comprend pas pourquoi les gens ils s'aggravent à ce point-là, enfin, on commence à comprendre, mais et ben, c'est quand même vachement plus facile de se dire « on sait ». Les gens savent, on nous ment, on machin, parce que cette croyance, elle est, je pense, très rassurante, et elle répond à notre absence de connaissance aussi. Et c'est pas comme... Si, c'est comme croire au Père Noël, c'est cool de croire au Père Noël, c'est cool de croire en Dieu, et c'est très rassurant d'avoir des croyances. Et ça donne des réponses qu'on n'a pas, et je pense que le monde actuel, il est super compliqué entre le capitalisme, la mondialisation, le machin, tout ça... Et que c'est très très rassurant d'avoir des explications simples à des phénomènes complexes. Et que c'est beaucoup plus rassurant de dire « on sait comment on va faire, on va vous soigner, il n'y aura pas de deuxième vague, on a le médicament », que de dire « putain, c'est un nouveau virus, en fait, on n'en sait rien ». Et c'est super flippant que les gens qui sont censés savoir disent « je sais pas ». Et je pense que c'est un truc très bête et très humain. Hein. On a inventé beaucoup de choses pour expliquer ce qu'on connaissait pas avant. Et la science permet de repousser ces croyances et de choses comme ça.
Alors justement, est-ce que tu peux détailler un petit peu comment la science, alors dans ce cas particulier la médecine, comment la médecine progresse à la base d'un virus inconnu? Parce qu'on a parlé de toi en mars, les vacances au ski, et puis la semaine suivante, le front, ok. Et du coup, côté chercheur, communauté scientifique, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a un médecin, à un moment donné, qui dit « Hey les gars, je crois qu'il se passe un truc dans ma région. » Et ensuite, tu vois, c'est un groupe WhatsApp, comment ça se passe?
Alors, maintenant, ça fait... Enfin, alors, je sais pas de quand date le terme, mais on fait ce qu'on appelle de l'EBM, de l'Evidence-Based Medicine. C'est de la médecine basée sur les preuves. C'est comme ça qu'on a décidé que la médecine, ça devait fonctionner. C'est qu'on devait prouver que la médecine fonctionne, que ça marche bien, faire la différence entre la corrélation et la causalité. Par exemple, si quand je tape dans les mains, mon ordinateur s'éteint, c'est pas parce que j'ai tapé dans les mains que mon ordinateur s'est éteint. Il y a une corrélation, c'est-à-dire que quand j'ai tapé dans les mains, mon ordinateur s'est éteint, mais il n'y a pas de causalité entre les deux. Et en médecine, déjà, c'est très très dur de trouver la différence entre la corrélation et la causalité. Donc déjà, il y a une première base d'études où on trouve cette corrélation. On se rend compte que, par exemple... je sais pas, si les gens qui mangent des bonbons Haribo, au bout de 7 jours, leur rhume, il est guéri. Donc on se dit, tiens, on va peut-être faire une étude là-dessus, peut-être que le bonbon Haribo, ça marche bien. Donc on va donner des bonbons Haribo à des gens d'un côté, et puis rien à l'autre, et puis on va regarder, et puis on va comparer les groupes et tout ça, pour voir là s'il y a une causalité. Le but, c'est de trouver des preuves et de se débarrasser de tous nos biais. Et des biais, on en a plein, et on en a tous, et les chercheurs aussi. On a des biais de sélection, où on va sélectionner les patients les moins graves pour, par exemple, essayer le médicament sur eux. Donc forcément, le médicament, les gens, ils vont pas mourir, mais est-ce que c'est le médicament ou est-ce que c'était les moins graves? On va se souvenir des cas un peu exceptionnels, c'est un biais de mémorisation. On sait qu'on a l'effet placebo qui marche beaucoup dans beaucoup de médicaments, donc c'est des fois compliqué de trouver la différence entre le vrai effet du médicament, l'effet placebo, etc. Donc on a...
L'effet placebo, ça veut dire que tu m'as pas donné le médicament, mais moi je crois que j'ai eu un médicament, du coup je m'auto-guéris.
C'est ça. En fait, on sait que tous les médicaments, même les médicaments avec des principes actifs dedans, ils ont une part d'effet placebo. C'est-à-dire que si je te donne un truc en te disant que c'est un doliprane, eh ben tu vas avoir un peu moins de fièvre, même si c'était pas un doliprane, s'il y avait rien dedans. Et on sait qu'il y a cette part dans tous les médicaments. On sait qu'il y a des maladies qui guérissent toutes seules. On sait qu'il y a tout ça, et c'est super compliqué de savoir si c'est le fait de penser que t'as pris un médicament qui t'a guéri, si ta maladie, elle a guéri toute seule, s'il y a autre chose dans le médicament qu'on savait pas ce que c'était et qu'en fait c'est ça qui t'a guéri. Et donc c'est pour ça qu'on fait des études d'abord, pour essayer de trouver des études observationnelles où on regarde ce qui se passe, et puis après on fait des études interventionnelles où on va essayer de tester différentes hypothèses. Là, ils ont fait plein de choses à la fois pour le Covid. Ils ont fait des études en labo. L'hydroxychloroquine, ça marchait sur le virus dans une éprouvette. Mais la Javel aussi, ça marchait dans le virus sur une éprouvette. Donc on fait des expériences en labo, on fait des expériences sur les animaux. Les masques, par exemple, on a fait des expériences super intéressantes avec des rongeurs et des masques pour savoir comment ça protégeait, quand, dans quel sens. Est-ce que le rongeur de tel côté du masque, il était plus contagieux que de l'autre côté? Enfin... Et ça, il y a plein de gens très très intéressants qui ont cherché plein de choses, et la recherche a beaucoup avancé parce que ça a paralysé toute la planète, et donc tout le monde s'est mis à chercher en même temps là-dessus. Alors que le coronavirus, à la base, les coronavirus qu'on connaît, ça donne des rhumes, donc tout le monde s'en fout un peu. Donc on n'a pas beaucoup de recherche sur les coronavirus, parce que ça guérit tout seul, il n'y a pas de médicaments, ça paralyse pas grand-chose. Là, maintenant que tout le monde cherche d'un coup, ça a quand même beaucoup, beaucoup progressé. Alors moi, j'ai pas fait de recherche clinique, moi c'est pas du tout mon métier, mais j'ai lu des articles et j'ai essayé d'analyser ces articles, d'analyser les chiffres, d'analyser les statistiques, et enfin ça, je pourrais te faire un cours de 4 heures là-dessus, mais moi déjà, en termes de lecture critique d'articles et de tri des informations, c'était déjà un premier travail pour faire de la science. Et pour sortir de la croyance.
Parlons de ça justement, quand on a préparé cet entretien, tu me parlais de, dans ta formation de médecin, vous avez, et c'est assez nouveau si j'ai bien compris, un cours de lecture critique d'articles. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est nouveau?
Je pense que ça fait une dizaine d'années, alors j'espère que je dis pas des conneries et que mes collègues vont pas râler dessus, mais en tout cas les vieux médecins ils faisaient pas ça. Et la lecture critique d'articles, on a 3 ou 4 années de cours dessus, et c'est une note qui est super importante pour la fin de nos cursus. On a un examen qui nous permet de choisir et notre ville et notre spécialité, donc c'est super important de choisir ta spécialité, tu choisis si tu veux être chirurgien ou radiologue, ça n'a rien à voir. Et cet examen-là, la lecture critique d'article, c'est 10% de la note. Ce qui est énorme, c'est plus que l'infarctus, c'est plus que tout enfin, c'est plus que toutes les autres. Que toutes les autres matières, et en fait ça nous apprend à lire des articles, parce que c'est pas parce que l'article est écrit et qu'il est publié que ce qu'il dit c'est intéressant. Par exemple, il y a des articles qui vont dire « tel médicament c'est super, il fait baisser la température de 0,1 degré, c'est prouvé de façon statistiquement significative, plus, c'est super ». Ouais, 0,1 degré on s'en fout en fait. Est-ce que les gens y meurent moins ? Non, les gens meurent pas moins, donc en fait là, ton article il est peut-être très bien fait, n'empêche que grâce à ma lecture critique d'article, je me suis dit bah, mais le critère n'est pas pertinent. Parce que baisser la température de 0,1 degré, cliniquement, ça n'apporte rien. Ou alors, tu as des articles où on te montre qu'il y a une différence, mais qu'elle n'est pas statistiquement significative. Ça veut dire qu'en fait, on ne sait pas si c'est le hasard ou pas le hasard qui fait qu'on a trouvé cette différence. Donc le mec publie, je ne sais pas, 20% de mortalité en moins avec tel médicament. Sauf qu'en fait, ses analyses prouvent que c'est pas statistiquement significatif, donc toi t'as appris à lire l'analyse statistique qui dit que son chiffre il est peut-être dû au hasard, qu'on n'en sait rien. Et c'est, enfin, la lecture critique d'articles c'est une matière qui est super longue et qui est une des rares matières où on nous demande vraiment de réfléchir et qui n'était pas enseignée avant. Et je pense qu'avant on prenait un peu trop pour argent comptant les différentes études, les choses comme ça, et de savoir les lire de façon critique, de savoir dire qu'est-ce qui m'apporte cet article, quelle est sa méthodologie. Est-ce qu'il y a assez de patients pour montrer une différence ? Est-ce que la différence, elle importe quelque chose ? Eh ben, c'est un truc auquel les vieux médecins n'étaient pas formés, auquel la population n'est pas formée, que beaucoup de journalistes n'ont pas fait l'effort de faire, et qui a beaucoup causé de tort, je pense, dans cette épidémie. Hein. C'est beaucoup plus facile d'inviter n'importe qui, de faire le buzz, et d'inviter des gens qui sont très rassurants, parce que c'est cool. Moi aussi, j'avais envie que la chloroquine, ça marche. Hein. J'avais envie que Raoul, qu'il ait raison, et qu'on ait un médicament vieux, pas cher, qu'on produit, qu'on ait le brevet et qui marche. Donc c'est beaucoup plus facile de faire du buzz que de faire ce travail de lecture critique d'articles qui est super ingrat. C'est super chiant. C'est pas un cours, c'est un cours. Personne n'aime ça. C'est notre note la plus importante. Personne n'aime ça dans les étudiants.
Je rebondis sur le sujet de la chloroquine. C'est un des thèmes du film Hold Up, et c'est du coup revenu ce week-end, mais qu'est-ce qui s'est passé avec The Lancet ? The Lancet, si j'ai bien suivi, c'est une revue de médecine prestigieuse. Donc normalement, quand le Lancet dit quelque chose, c'est comme le guide Michelin quand il donne des étoiles à des restos, ça fait autorité. Et si j'ai bien suivi, le Lancet a publié une étude en disant que la chloroquine, ça marche pas, et il l'a retirée, trois jours après.
Alors en fait, c'est pas The Lancet qui dit quelque chose. On a un système qui est assez bâtard de revues médicales où il y a des revues plus ou moins cotées, effectivement. Publiées dans The Lancet, c'est la classe ultime et tout, parce qu'ils demandent une qualité de travail qui est énorme et ils demandent des grosses études qui ont de l'impact et des choses comme ça. Et en fait, comment ça fonctionne ? On envoie les articles, on envoie ce qu'on appelle un préprint, donc avant qu'ils soient imprimés, avant qu'ils soient dans la revue. Les relecteurs le relisent et disent si c'est publiable ou pas. Là, déjà, le premier...
Les relecteurs, c'est qui ?
Les relecteurs, c'est un comité de médecins, de savants, de choses comme ça, qui ont été choisis par la revue, et qui ont été choisis en fonction de ce qu'eux-mêmes ont publié et de ce qu'ils apportent à la science. Donc, normalement,
c'est un comité d'experts.
C'est ça, c'est un comité d'experts là-dedans. Donc, normalement, c'est quand même des gens assez... Donc, les deux soucis sur la chloroquine, c'est que déjà, on a beaucoup de préprints qui sont sortis. Et le préprint, c'est l'article qui a certes été écrit, mais qui n'a pas été validé par le comité d'experts, par la relecture par les pairs. Donc, c'est compliqué parce que c'est des trucs qui sont pas encore sortis, est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont pas vrais, ça a pas été étudié. Et puis je pense que The Lancet, ils se sont peut-être un peu chauffés un peu trop vite, ils ont publié quelque chose et après ils se sont rendu compte qu'il y avait des biais méthodologiques, et vu le bordel que c'est en ce moment avec les études, ils ont préféré retirer tout de suite et réétudier le truc. Peut-être, alors je sais pas comment ça s'est passé, mais peut-être effectivement que le comité de pairs relecteurs, pareil, c'est des humains, ils étaient biaisés, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais en tout cas, il y avait certains biais méthodologiques dans cette étude qui ont été réécrits, et maintenant on a beaucoup d'études qui sortent, qui prouvent qu'il n'y a aucun intérêt à mettre de... Enfin, on n'en a aucune preuve, en tout cas, que l'hydroxychloroquine marche. Et par contre, on a la preuve que hydroxychloroquine plus azithromycine, les gens meurent plus que si on leur donne rien. Donc il faut arrêter, là. Et on a perdu du temps, de l'énergie et de l'argent à cause d'études qui ont été mal faites dès le début, de plans de com qui sont montés là-dessus. Et si Raoul, qu'il avait fait proprement une première étude à la base de celle qui est sortie sur ces 30 patients-là, on n'aurait peut-être pas eu besoin de tester de la chloroquine sur tous ces gens-là, parce qu'on aurait su dès le début que ça marchait. Et ça aurait pas été un problème d'État, personne n'en aurait rien eu à foutre. S'il n'était pas passé à BFM Télé, à machin, tout ça, ça aurait été notre guéguerre de scientifique dans notre coin, et on serait peut-être moins senti obligé de mettre de la chloroquine à tout le monde. Et tout le monde n'aurait pas donné son avis, enfin, Douste Blasi et compagnie, d'où ils donnent leur avis.
Bah ça, c'est un bon exemple de corrélation et de causalité. Corrélation, il y a des gens qui ont pris de la chloroquine et qui ont été moins malades, voire qui ont guéri, c'est une corrélation. Et quand on a voulu tester la causalité, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de lien de causalité.
C'est ça.
Je suis prête pour être médecin. Je rigole parce qu'il faut quand même rire un petit peu, hein. C'est des sujets graves, c'est des sujets sérieux. On était en train de parler de cette étude du Lancet sur la chloroquine. Il y a une autre mesure qui a fait polémique, en fait. C'est, a priori, la chloroquine, c'était un médicament qui était disponible sans ordonnance, enfin qui pouvait s'acheter assez facilement. Et du jour au lendemain, la vente a été interdite, où c'était plus possible de s'en procurer. Pourquoi ?
En fait, c'est pas exactement ça. La chloroquine, au début, c'était en vente libre parce que c'est ce qu'on appelle un antipaludéen de synthèse. Et donc, c'est un médicament que tu prends pour pas avoir le palu, mais que tu... Enfin, qu'on traite pas les populations locales avec. C'est un médicament pour touristes. Tu vas le prendre pendant un mois, le temps que t'ailles faire ta mission humanitaire ou ton voyage ou ton machin. Et donc, c'était en vente libre et pas remboursé parce que c'est pas le problème de la sécu que t'ailles te balader, faire un safari photo. Donc, tu pouvais acheter ton palu. Ta prophylaxie anti-paludéenne, c'est-à-dire le médicament qui te permet de ne pas attraper le palu, mais qui ne traite pas le palu là-bas, qui n'est pas un médicament qu'on donne aux populations locales ou ce genre de choses. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas top pour les femmes enceintes et qu'il pouvait avoir quelques effets secondaires, notamment le fameux allongement du QT, donc on a beaucoup entendu parler. Le QT, c'est une mesure qu'on a sur l'électrocardiogramme, donc l'enregistrement électrique du cœur, et on sait que plus le QT s'allonge, donc plus il est long, plus on le mesure longuement, plus on peut faire des troubles du rythme qui peuvent amener un arrêt cardiaque. Donc c'est bien de savoir si on n'a pas, parce qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un syndrome du QT long, donc qui ont naturellement le QT qui est long, et si on leur donne des médicaments qui l'allongent encore plus, bah, c'est dangereux. Donc il est passé sur ordonnance en 2019. Donc il était déjà sur ordonnance, il était déjà plus en vente libre pendant la crise du Covid. Je crois qu'il est passé sur ordonnance en décembre 2019.
Juste avant la pandémie.
Ouais. Juste avant la... Voilà, c'est Big Pharma. Mais il est passé pour des raisons qui ont été justifiées comme étant des problèmes sur les femmes enceintes, etc. Le deuxième souci, c'est que parmi les médecins, il y a beaucoup de médecins qui sont très attachés à leur liberté de prescrire, qui est certes très importante, mais qui veut pas dire qu'on peut prescrire tout et n'importe quoi, et qu'on prescrit n'importe comment de la chloroquine à tout le monde, de l'azithromycine à tout le monde. L'azithromycine, c'est un antibiotique, donc ça fabrique des bactéries multirésistantes si c'est pas bien utilisé, et puis ça allonge aussi le QT. Donc si on donne deux médicaments qui allongent le QT, les gens, ils risquent quand même de faire des arrêts cardiaques, alors qu'on sait même pas si ce médicament va les aider à guérir. Donc on peut pas prendre le risque... de dire vous allez prendre un médicament qui vous fait faire des arrêts cardiaques peut-être et qui vous guérit, on ne sait même pas si ça va vous guérir ou pas. Pour une maladie...
On revient à l'approche bénéfice-risque.
Donc le bénéfice-risque du combo azithromycine plus hydroxychloroquine, il n'était pas prouvé. Et tant que le bénéfice n'était pas prouvé, eh ben, ça n'avait pas d'intérêt de le faire. Et il a fallu, je pense, empêcher les médecins de faire un peu n'importe quoi.
Moi, j'ai carrément pensé que c'était pour éviter que les gens dévalisent les pharmacies... et prennent les stocks et privent les gens qui ont besoin de ce médicament, parce que j'imagine qu'il est prescrit à des gens qui en ont besoin pour des raisons valables, et que c'était pour éviter qu'ils connaissent une pénurie. Vu ce que les gens ont fait sur le PQ, les pâtes et la farine, il y avait quand même à craindre pour les médicaments.
Je pense qu'il y avait de ça aussi. Après, l'azithromycine, c'est un médicament qui est très très courant. Moi, j'en prescris contre les chlamydia. Ça se prescrit contre certaines pneumonies aussi pour les jeunes, donc c'est un truc qui est vachement courant. Je pense qu'il y en a pas mal en termes de stock. Et puis l'hydroxychloroquine, ça sert pour certaines maladies rhumato, et ça sert pour les lupus. Donc effectivement, il y a des gens qui en avaient besoin et qui ont eu du mal à s'approvisionner.
Merci pour toutes ces explications sur la chloroquine gate. Tu as prononcé un peu plus tôt dans cet entretien un mot sur lequel j'aimerais revenir. Tu as parlé de vaccin, et j'aimerais qu'on en parle, parce que c'est pareil. Le vaccin, c'est devenu un sujet de débat. Alors, est-ce qu'on peut commencer par expliquer le principe d'un vaccin, s'il te plaît ?
Alors, juste, je reviens sur le fait que ce soit un débat. Dans les autres pays, on se fait mais bolosser par tout le monde parce qu'on est le seul pays à être anti-vaccin et on se fout de notre gueule. On est là genre, non mais les Français, c'est quand même une blague. Le principe...
Alors on va expliquer pourquoi. On va expliquer pourquoi il y a un débat autour des vaccins, mais j'ai besoin qu'on y aille étape par étape. Donc de commencer du coup par expliquer le principe d'un vaccin, c'est quoi, pour qu'on sache de quoi on parle.
Alors le vaccin, c'est une vieille technologie. On a commencé, ça s'appelle la vaccination, parce qu'on a utilisé une maladie de vache qui s'appelait la vaccine. Qui donnait des petits boutons sur les mains, enfin peut-être des gros boutons quand même, enfin qui donnait des boutons mais qui était pas grave, qui était une maladie de vache et qui était en fait très proche de la variole. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens qui avaient eu la vaccine n'avaient pas la variole. Et la variole, ça a tué des gens à l'époque. Donc on a commencé à vacciner les gens. Le mot vaccin vient de ça. On leur a inoculé un petit peu de cette maladie-là et ils faisaient jamais la variole. En fait, le principe d'un vaccin.
Donc là, bénéfice risque. Je prends une maladie qui n'est pas trop chiante et pas trop grave pour éviter une maladie mortelle.
Ça. Et donc là, on est dans un bon rapport bénéfice-risque. Le principe du vaccin, souvent, c'est de prendre un petit bout d'un agent qui est pathogène, donc d'un microbe, d'un virus, de quelque chose qui est mauvais pour le corps, et d'aller le présenter à nos anticorps. Et en le présentant à nos anticorps, enfin à notre système immunitaire, qui est un peu le petit soldat du corps, on les présente aux soldats en disant bah, « Regardez, la prochaine fois que l'ennemi va venir, il aura ce drapeau-là, il aura cette gueule-là. » lui c'est un ennemi et lui faut le tuer et c'est comme ça qu'on le tue. Et en fait, en présentant soit des morceaux de virus, soit des virus inactivés, soit des virus vivants mais qui peuvent pas faire de mal, tout ça, on entraîne le système immunitaire pour que la fois où il rencontre le vrai microbe, il sache se défendre et qu'on ne fasse pas la maladie. Donc il y a plein de types de vaccins différents. Il y a des vaccins vivants atténués, il y a plein de technologies différentes, mais grosso modo, le principe, c'est ça. C'est de faire reconnaître au système immunitaire la maladie et qu'on puisse s'en défendre après. Donc, on avait ça avec le vaccin contre la rage. Et les vaccins, c'est quand même une vieille technologie médicale. C'est un truc, on sait faire, ça fait longtemps qu'on les a fait. Alors, on ne peut pas faire des vaccins pour tout. Par exemple, le sida, on n'arrive pas à faire de vaccin parce que c'est un virus qui change beaucoup d'apparence et on n'arrive pas à en trouver un petit bout qui resterait le même pour apprendre à notre système immunitaire à s'en défendre. D'autant plus que le VIH, il est encore plus chiant parce qu'il s'attaque au système immunitaire, donc c'est un peu compliqué. Mais il y a plein de maladies où, en soi, c'est assez facile de faire des vaccins. Après, comme ça demande des sous, etc., il faut que ce soit un problème de santé publique. Par exemple, le rhume qui est causé par 800 microbes différents, on ne va pas faire 800 vaccins pour soigner un rhume, ce qui coûterait des milliards et des milliards pour pas grand-chose. Par contre, des maladies comme la poliomyélite, qui sont des maladies qui étaient soit mortelles, soit très génératrices de handicap... Et ben c'est super intéressant de faire un vaccin, parce que ça coûte super cher de soigner les gens qui ont la polio, alors que le vaccin il coûte pas très cher, et qu'on a presque éradiqué en France, la polio ça n'existe plus. C'est génial. La rage, c'est un truc qui était 100% mortel dès qu'on avait les symptômes, maintenant qu'on a vacciné les vétos, tout ça, on est content. Le papillomavirus, le Gardasil, il y a presque plus de cancer du col de l'utérus en Australie, parce qu'ils vaccinent les filles et les garçons depuis 10 ans. Donc on sait que c'est un truc qui est... Enfin, le vaccin c'est... Une vieille technologie, ça marche bien, on parle de l'aluminium, mais putain, il y a plus d'aluminium dans un tatouage que dans un vaccin.
C'est vrai, ça ?
Ah bah oui, les anti-vax qui sont tatoués, ça me fait toujours beaucoup rigoler. Le vaccin a un rapport bénéfice-risque, tant au plan individuel qu'au temps populationnel, qui est 1000 fois en bénéfice du vaccin. Ok, ça fait mal, ok, on peut avoir un peu de fièvre après, mais à côté, on va pas mourir du tétanos. Donc,
Alors, j'entends bien, sauf que tu raisonnes à l'échelle d'une population, et tu viens de le dire, que le bénéfice-risque, il était à l'échelle de la population, que par exemple, par exemple en Australie, il n'y a pas des histoires d'effets secondaires, de gens qui ont développé d'autres pathologies, et globalement, je pense que c'est ça qui fait peur à beaucoup de gens, c'est que moi, je veux bien que, effectivement, le risque d'effets secondaires nocifs ou de développer un truc, etc., il soit de 1 sur 1 million, ouais, mais si c'est moi qui tire le ticket gagnant à la loterie, bah, j'ai pas envie, quoi. C'est jouer à la roulette russe avec beaucoup de trous dans le chargeur, je suis d'accord, mais bon, si c'est toi qui prends la balle, c'est toujours une balle.
Il y a deux réponses à ça. On demande aux gens de faire de la santé publique. On demande aux gens de faire de la politique de santé publique et de pas soigner uniquement les individus. Et c'est super dur. On le voit avec les mammographies, par exemple. On se pose de plus en plus la question de dire, est-ce que ça vaut le coup de faire une mammographie ? Et nous, on se dit tous, oui, mais il y a telle dame, je l'ai sauvée de son cancer parce que j'ai trouvé son cancer. On a besoin de faire des études pour ça, pour savoir si ça vaut le coup en termes de population et d'éthique, et de savoir à quel point tels effets secondaires sont acceptables à l'échelle de population. Effectivement, si le vaccin il a tué une personne, mais qu'il a permis à 100 000 personnes de pas mourir, Eh ben, c'est peut-être dur, mais en tant que médecin et en tant que décisionnaire de santé publique, il faut recommander ce vaccin. Après, le gros problème qu'on a en France, c'est encore un problème d'études pourries. On a un problème de communication qui a été faite sur le vaccin contre le ROR, rubéole au rayon rougeole, qui causerait l'autisme. Ça, c'est un grand truc. En fait, c'est une étude sur 12 enfants qui est sortie il y a je sais plus combien d'années, où le mec a fini par avouer qu'il avait truqué ses chiffres. Alors déjà, sur 12 enfants, ça valait rien. On vaccine toute la population française depuis des années par le ROR. 12 autistes sur toute la population française, déjà, les chiffres valaient rien. En plus, il a truqué ses chiffres. En plus, le vaccin a été... Enfin, l'article a été retiré. Il y a eu un commentaire qui a dit « Pardon, désolé, le mec, il a menti, c'était pas vrai, c'était pas les bons chiffres. » Et il y a eu toute une erreur de communication autour de ça qui a monté le truc en épingle sur, à la base, un article foireux. Et là, on a dû faire une étude sur 66 000 enfants pour prouver que cet article foireux à la con sur 12 enfants disait des conneries. Et moi, je trouve que c'est catastrophique en termes de moyens, enfin, la thune que ça a dû coûter de faire une étude sur 66 000 enfants pour démonter un article qui avait été monté en épingle. C'est catastrophique. Et on a eu la même chose, on a fait une grosse campagne de vaccination contre l'hépatite B dans les années 90, et la France a merdé en termes de communication sur les vaccins et la sclérose en plaques. On n'a aucune étude qui prouve une quelconque influence du vaccin sur la sclérose en plaques. On a eu un doute à un moment, on a fait les études, et le vaccin a été retiré du marché sur un doute. Et ce qui a donné dans l'esprit de la population vraiment une idée que ce vaccin était dangereux. Et je pense qu'on a des grosses erreurs de communication là-dessus, sur ces deux trucs-là qui sont pour moi les principaux reproches des antivax. Hein, c'est la sclérose en plaques et puis l'autisme. Et l'aluminium. Ouais, enfin, alors l'aluminium, je sais même pas quel serait le problème de l'aluminium. Enfin, qu'est-ce que ça ferait de l'aluminium, mais bon. Les gens qui ont des prothèses de hanche et des trucs comme ça, ils ont plein de métal dans le corps et ils vivent très bien.
On se fait pas vacciner 27 fois dans une vie. Enfin, il y a quelques shots, quelques rappels. C'est, enfin, quand bien même il y avait de l'aluminium,
c'était l'aluminium dedans, mais qui est pas forcément. Enfin, regarde ce que tous les gens ils bouffent. Enfin, tu vois les gens qui te disent ça, ils bouffent au McDo, ils bouffent des saloperies, des machins. Tu mets des saloperies dans ton corps à longueur de temps. Cette piqûre avec un nanogramme d'aluminium, enfin je sais pas la dose, mais c'est un truc minuscule d'aluminium. Je sais plus combien il y a de doses d'aluminium dans les vaccins. On le met effectivement parce que ça fait une petite réaction inflammatoire et c'est intéressant parce que ça fait venir les globules blancs. Donc les globules blancs ils viennent à cause de l'aluminium et du coup ils voient les morceaux de virus et ils apprennent à reconnaître les morceaux de virus.
Ah, c'est comme ça que tu fais venir En fait, tu introduis l'ennemi mais prisonnier dans l'organisme. Tu appelles les généraux de l'armée de défense pour leur dire regardez, c'est lui. Prenez bien note de sa stratégie, comment il fonctionne, comment il s'attaque à vous, etc. Donc, on a les plans secrets de l'ennemi quand il attaque. Et comme ça, le jour où ils essayent de passer par la Belgique, on n'est pas comme des cons derrière la ligne Maginot. On intervient et on l'arrête. J'ai compris.
C'est une fois la vie de la vaccination, il est parfait.
Oui, je l'ai vu.
Thanos, il est trop bien. Donc... C'est des trucs comme ça qui manquent à la population générale. Je pense que on n'a pas mis assez d'argent dans l'éducation, on n'a pas mis assez d'argent dans la lutte contre les inégalités, et on a une population qui est pas éduquée, on a une population qui a pas de culture scientifique, on a une population qui a pas forcément de culture tout court, qu'on continue à abreuver de trucs débiles. Enfin, moi, je trouve que c'est criminel que les gamins, quand ils rentrent de l'école le soir, maintenant, c'est plus c'est pas sorcier, c'est les anges de la télé-réalité. Je suis une très grande fan de Fred et Jamy.
Dédicace, Fred et Jamy.
mais je pense que... Alors, je sais pas à quel point c'est conscient ou c'est juste moins cher de faire de la merde au kilomètre à la télé, mais on n'est pas du tout dans une promotion de la santé auprès des gens, on n'est pas dans une promotion de l'éducation à la santé ni de l'éducation en général. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des antivax, avec des homéopathes, avec tout ce bazar.
Mais la confiance est rompue, parce qu'on en parlait tout à l'heure, à partir du moment où on a des représentants de l'État qui ont menti à leur population pour, je pense, des bonnes raisons, mais c'était une erreur de ne pas le reconnaître ensuite, donc la confiance est rompue, et paradoxalement, tu viens de le dire, mais dans le monde médical, le principe de précaution s'applique, donc on a un doute, on retire un vaccin, et c'est pris pour un aveu de ah bah c'était c'est bien la preuve que il était mauvais et la confiance est rompue.
Je pense qu'on a vraiment un problème et d'éducation d'un côté et de confiance de l'autre et que c'est les deux faces de la même pièce en fait. C'est quand tu prends les gens pour des cons, que tu leur manques, que tu peux pas te plaindre d'avoir une population pas éduquée et en même temps de prendre les gens pour des cons. Enfin, je pense que ça va ensemble.
Mais alors, j'y reviens maintenant, tu le disais juste avant qu'on commence à parler de vaccins. Ne me dis pas qu'ailleurs dans le monde, les populations sont bien mieux éduquées qu'en France, parce qu'on va repartir sur une heure de débat. Pour autant, tu disais que c'est en France, on a cette réputation d'être sceptique face aux vaccins, que ce n'est pas le cas dans d'autres pays du monde. Pourquoi ? Alors pourquoi ailleurs la vaccination est beaucoup mieux acceptée ? Quelle est la différence selon toi ?
Alors parce que déjà les deux affaires dont je t'ai parlé, c'est des affaires très franco-françaises, c'est des trucs qui n'ont pas fait beaucoup de bruit ailleurs et qui ont fait beaucoup beaucoup de bruit en France au moment où c'est sorti, donc je pense que ça a joué sur les populations. Puis après le français c'est le gaulois à l'heure, contestataire, etc. Je pense qu'on n'est pas du tout... Je pense que c'est beaucoup aussi une histoire de mentalité. Alors c'est très cliché, hein, mais quand on voit les pays du Nord qui ont l'air beaucoup plus... obéissants entre guillemets que nous, enfin je sais pas, le français de base il travaille un peu au black et puis les hommes politiques ils sont un peu corrompus et c'est pas grave et puis il trompe un peu sa femme et puis c'est pas grave et puis enfin c'est des trucs qui sont très très acceptés en France et qui sont inacceptables dans d'autres pays qui font aussi notre culture je pense, mais qui doivent participer à ça. Ça se voit beaucoup sur la politique. Enfin moi quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique, il y a eu l'affaire Juppé, les emplois fictifs. Je pense que dans beaucoup d'autres pays, en Allemagne, il serait mort à fond, il n'aurait jamais ressorti. Et c'est un truc assez franco-français de dire « bon, ils magouillent un petit peu, mais c'est un peu leur métier quand même. » Et par principe, on est râleur, et par principe, on n'est pas d'accord, et par principe, on n'est pas très organisé, et on n'est pas très... Enfin, on est très indépendant quand même. Même dans... Pour rebasculer sur ce que je connais pour la médecine, en France, on est des petits libéraux isolés. Les médecins généralistes, on fait notre vie, on est libre de notre prescription, on est libre de faire tout ce qu'on veut, et on est très isolés, alors que par exemple, les médecins généralistes anglais, ils sont salariés, et ils font tous partie d'un grand réseau. Et c'est pour ça que les Anglais ont des très bonnes études de population, parce que comme leurs médecins sont salariés, on peut leur demander de faire des grosses études en population générale. Je pense que c'est vraiment une histoire de... Alors, j'ai pas fait d'études là-dessus, hein, mais je pense vraiment que c'est une histoire de tempérament, d'éducation, de politique de santé qui n'ont pas été faites, d'éducation de la population qui n'a pas été faite, et de scandales de communication qui ont été montés en épingle et qui restent dans les mémoires. Et puis, c'est pareil, donc je te dis, sur les hommes politiques un peu magouilleux, putain, on rembourse l'homéopathie. Ça coûte... Il y a un compte Twitter qui est génial, qui te donne le coût de l'homéopathie remboursé par jour et qui te convertit ça en poste de temps plein infirmier, en poste de temps plein aide-soignant, en poste de choses comme ça. Et on met c'est même pas le paradoxe, mais c'est l'exception de l'homéopathie. C'est le seul médicament qui a le droit d'être remboursé et de pas avoir fait preuve de son efficacité. C'est dans la loi française. L'homéopathie était la seule exception du seul médicament qui avait pas besoin de prouver que ça marchait. Donc on est dans tout un système comme ça, qui est multifactoriel. Les Français sont pas plus cons que les autres. Mais ils sont un peu éduqués à râler, un peu éduqués à faire... Enfin, moi, je pense que c'est vraiment ça, plus les deux affaires dont je t'ai parlé, qui ont eu pas mal de retentissement dans les médias. Et on n'a pas su rattraper la confiance des gens. On n'a pas su faire l'éducation qu'il fallait à ce moment-là.
Tu parles des médecins comme vous êtes des libéraux isolés par rapport aux Anglais qui sont salariés. Pour autant, vous avez réussi, et la France entière vous remercie et vous admire pour ça, à travailler tous ensemble, à communiquer, à travailler comme une énorme équipe pour protéger au mieux toute la population. Donc je vais quand même relayer au nom de tous les gens qui nous écoutent nos remerciements. On n'applaudit plus à 20h, on réclame du fric pour l'hôpital public et plus de moyens. Et on espère que... On attend tellement de pouvoir retourner dans les rues, faire des grands cortèges de manifs. On sera derrière vous, vous aurez la tête de cortège et nous on sera derrière à réclamer de l'argent pour l'hôpital. Donc merci beaucoup pour ça. Mais je voudrais qu'on termine en te laissant la parole pour que tu puisses nous partager, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous auront écoutés jusqu'au bout, quels conseils tu aimerais leur donner, quels messages tu aimerais leur faire passer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui auront écouté jusque-là, qui ont peur parce que cette situation, elle est angoissante et anxiogène, qui sont frustrés parce que ça fait longtemps que ça dure, qu'on ne sait pas où on va. Et c'est pas qu'ils sont anti-vax ou qu'ils sont anti-gouvernement, mais c'est qu'ils sont fatigués des certitudes d'un côté comme de l'autre. Et je voudrais que tu puisses profiter de cette fin d'interview pour leur adresser un message.
Je comprends cette fatigue que je ressens aussi. même si, comme je disais au début, je suis quand même très très préservée là-dedans. C'est fatigué de pas savoir, c'est fatigant de pas savoir, de pas avoir de certitude, et c'est ça qui est long depuis le début, je crois. C'est qu'on sait pas, et qu'il faut se remettre à jour tout le temps, et que des fois on se trompe, et que c'est, on n'est pas dans une culture qui accepte l'erreur non plus beaucoup. Donc faut accepter de dire on a essayé, on a raté, ou on va tenter, puis on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il faut se rassurer quand même. La recherche a jamais avancé aussi vite sur des vaccins. Je pense qu'on va trouver un vaccin et que ce sera pas pour nous injecter la 5G, la 6G ou le Minitel ou je sais pas quoi. Faut continuer à mettre des masques, faut continuer à faire attention, faut continuer à faire gaffe à ses proches. Je pense qu'on n'est pas prêt de retourner en fosse dans un concert. Ça va durer, il va sans doute y avoir une troisième vague, ça va durer un moment. Après, ce qui est très rassurant, c'est quand on regarde l'histoire des épidémies. Même la peste, hein, la peste, on savait pas quel était le problème, on savait pas que c'était la puce du rat, on connaissait pas le microbe, on connaissait pas ce genre de choses. Même les épidémies pour lesquelles on n'avait pas de vaccin, pas de médicaments et qu'on savait pas d'où elles venaient, ça durait 2-3 ans et ça repartait. Donc moi je m'accroche à ça, en me disant qu'il y a des vagues, des choses comme ça, mais qu'avec les mesures qu'on met en place, on va s'en sortir. Le personnel soignant est fatigué, mais on va faire le boulot comme on l'a toujours fait, puis on va continuer à le faire. Le vaccin, les yeux sont quand même braqués là-dessus, et je pense que il y a suffisamment de bons scientifiques et de gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt pour qu'on puisse avoir un vaccin qui fonctionne. Et puis voilà, je comprends en tout cas la fatigue, l'énervement, faut essayer de se recentrer sur ses proches. Alors encore une fois, c'est très facile pour moi. Moi j'habite dans une ville de province, j'ai une maison, j'ai un cheval dans une pâture que je peux aller voir. Donc vraiment, c'est facile dans ce sens-là. Je suis pas confinée dans 8 mètres carrés à Paris avec mon mec qui me tape dessus. Il faut qu'on reste unis. Il faudrait qu'on ait plus de culture scientifique. Moi, je suis pour l'éducation, pour tout ça. Et puis, il faut pas oublier que je pense que le plus gros problème de tout ça, je sais pas si c'est hors sujet ou pas, tu couperas au montage si tu veux, mais le premier vrai ennemi, pour moi, c'est la société capitaliste dans laquelle on vit. C'est ça un problème de globalisation, de capitalisme, de gens qui pensent d'égoïsme qui est fait par ce capitalisme effréné. Et faut qu'on profite de ce moment-là aussi. On parlait beaucoup du monde d'après. Bah, après la première vague, moi, j'ai pas vu trop de différence. Hein. Mais je pense qu'il faut qu'on profite de ça pour essayer de repenser notre politique, notre vision du monde, et de savoir ce qu'on veut pour demain, quoi. Et là, on est capable, sur un virus, de faire des efforts énormes. On a le réchauffement climatique derrière, va peut-être falloir faire les mêmes efforts. Alors, je sais pas si c'est très rassurant non plus, mais je pense qu'on peut profiter de ce moment-là quand même, où on a moins de choses à faire pour réfléchir à l'avenir et réfléchir à des problèmes qui sont structurels dans notre société. Et voilà, le patriarcat d'un côté, le capitalisme de l'autre, et on va s'attaquer à ça.
C'est pas du tout hors sujet. Je pense qu'on peut être très fiers de notre résilience. Merci beaucoup, Dr. M.
Merci à toi.
C'était Des Nouvelles du Front, un épisode hors série d'activistes dédié à la crise sanitaire. Si vous êtes un ou une professionnelle de santé qui nous écoute et qui voudrait prendre la parole, contactez-nous. Activiste vous tendra son micro pour recueillir votre témoignage. Écrivez-nous à tutoconquérirlemonde@gmail.com, objet Des Nouvelles du Front. Merci, à très vite.
Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tutoconquérirlemonde@gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.